Nous avons trouvé parmi les citations qui ont commencé le séminaire du vendredi matin et le cours de M. Moshe Itel, cette définition qui remonte au XVIIe siècle, via mystica brevis et facilis est. Alors, très malheureusement, nous devons convenir aujourd'hui que la voie mystique est brève et que les cours si beaux et si enrichissants de Moshe Itel se terminent, hélas, aujourd'hui. Mais il nous a montré que la voie mystique est brève, mais n'est pas facile, et il nous demande, avec la rigueur, la presse et la fascination du corpus qu'il a étudié, de continuer à travailler ce texte. Nous espérons, du reste, d'avoir bientôt le livre qui découle de cette recherche et de ces leçons. Et donc, je me permets de le remercier au nom de vous tous et tout spécialement de donner la parole pour un remerciement qui relève de l'ensemble de l'Assemblée des professeurs à Monsieur Nathan Rapsel qui nous coordonne dans nos travaux de réflexion dans l'Assemblée des professeurs.
Simplement, Moshe Itel, je voulais... Puisque j'ai été chargé par Monsieur l'Administrateur et par mes collègues de l'Assemblée des professeurs, je suis vraiment heureux de vous remercier de votre présence à Paris. Le public ici présent est conscient de tout ce que vous nous avez apporté et nous espérons que vous continuerez à nous apporter. Et donc, on vous remercie encore et au nom de Monsieur l'Administrateur, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille du Collège de France. Voilà. Je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir assister à votre conférence parce que j'ai mon propre séminaire à l'école des hautes études maintenant à 4 heures. Alors il faut que je fasse un nouveau transfert. Avec mes excuses, mais bonne continuation. Bon travail. Parce que sinon, je vais perturber la séance. Je vais sortir par la sortie des artistes.
Merci beaucoup encore une fois. Et je voulais offrir un petit sommaire et de la dernière conférence pour avoir un type de continuité. Et la récitation de la Torah est une lecture, un rite communautaire, a devenu dans des textes kabbalistiques et chassidiques une technique mystique, c'est-à-dire une voie de réaliser d'une façon, de manière très courte et facile, une expérience mystique. Et d'autre côté, nous avons discuté la vision ontologique de la Torah, c'est-à-dire le Dieu et la Torah, le Torah et Dieu. C'est-à-dire nous avons deux mouvements dans le même temps. Le mouvement de la rite communautaire vers une manière plus technique, c'est-à-dire ce n'est pas seulement un rite, c'est plus qu'un rite, quelque chose qui est plus efficace qu'un rite, c'est une technique. Mais d'autre part, nous avons une vision ontologique de la Torah, le texte sacré, et c'est parce que nous avons ce type d'accord entre la technique et le divin qui, Dieu comme texte sacré. C'est-à-dire, c'était le mouvement de base. Et maintenant, je voulais vous démontrer qu'il y a quelque chose aussi très similaire dans le cas de la prière. C'est-à-dire, même dans le cas de la prière, nous avons une vision rituel de Dieu oran dans des textes pré-kabbalistiques, dans des textes talmudiques. Et après, nous pouvons voir comme la prière a devenu une technique mystique, et c'est parce que nous pouvons avoir ce circuit de la prière comme une technique, la prière comme Dieu, qui peut être réalisée dans la prière. Qu'est-ce que c'est intéressant est que le premier démarche dans la direction que le Dieu et on dit Oron, se trouve déjà dans le texte talmudique, et c'est, on fait part de le premier livre de le Talmud. C'est-à-dire, si quelqu'un étudie le Talmud, c'est dans le septième folio de le Talmud, dans le traité qui s'appelle Brachot, c'est à début de le Talmud, nous avons une vision qui a été traduite ici, dans la première section, que Dieu lui-même a une formule qui est une prière, et ce type de prière est adressé à les attributs divins. C'est un passage très clair, très important, que nous pouvons voir que le Dieu est un Dieu orant. Mais qu'est-ce que c'est aussi important est le fait que le texte de la prière divine est presque le même texte qu'il se trouve aussi en le nom d'une grande figure rabbinique, Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est un type de changement de don entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu, c'est-à-dire que nous avons en fait quelque chose que je voulais dessiner, appeler comme une zone de prière. C'est-à-dire, entre Dieu et nous, il y a une zone des attributs divins à quel Dieu prie, et nous, la prière humaine s'adresse à la même zone de prière. C'est-à-dire, ce type de développement crée déjà dans la littérature rabbinique une rencontre entre les deux types de prières, divin et humain. Je ne peux pas entrer ici dans tous les aspects compliqués, je crois. C'est clair, mais c'est aussi compliqué dans le même temps, qui se trouve dans le passage rabbinique, mais je voulais souligner l'importance ici de l'existence de quelques attributs divins. C'est-à-dire, ce n'est pas un ou deux comme dans le texte rabbinique classique, mais peut-être c'est le seul texte talmudique, ou midrashique, ou rabbinique en général, où nous parlons, c'est clair, d'une en pluriel, de texte divin en pluriel. C'est-à-dire, c'est un monde, une zone, deux attributs divins, à quel Dieu prier et à quel aussi l'homme doit s'adresser. Qu'est-ce que c'est intéressant dans la première discussion kabbalistique à Gérone, à Catalogne, que nous avons des interprétations de le texte talmudique où la prière a devenu une dynamique divine importante. Il y a ici une série de quelques citations écrites par le premier texte ont été écrits par Rabbi Ezra de Gérone et après Rabbi Aziel de Gérone, et après nous avons des autres textes qui sont des commentaires et plus tard jusqu'à la fin du 15e siècle. Et qu'est-ce que c'est intéressant est que chaque attribut divin maintenant se trouve dans une relation avec l'attribut supérieur. Les attributs sont appelés maintenant Sephira, et chaque Sephira, chaque attribut divin, prié à l'attribut supérieur. Nous avons une vision de les attributs divins comme orant. C'est-à-dire, si nous voulons maintenant définir le Dieu kabbalistique dans le premier cercle de la Kabbalah géronaise, nous pouvons parler de quoi? D'une prière qui est tout le temps une ascension vers l'attribut supérieur, et chaque attribut prié à l'attribut supérieur, et nous pouvons définir maintenant Dieu comme un complexe des attributs qui priait à l'autre. Priait pourquoi? Pour recevoir, en fait, le influx divin. Et nous avons, je crois, ici une interprétation plotinienne, en fait, ce type de accent et de son, et de les attributs divins. C'est clair que nous avons ici des commentaires, des interprétations sur le Talmud, mais c'est un type d'interprétation très très plotinienne. Mais de point de vue phénoménologique, qu'est-ce que c'est important ici? Que la dynamique intra-divin est une dynamique de la prière qui est une dynamique rituelle. C'est-à-dire, le Dieu performe tout le temps ce type de prière. C'est une mode de base dans le signe de la divinité. Et c'est le pas que j'appelle la vision ontologique de le rituel. C'est clair que le Dieu est la grande prière, la prière qui continue tout le temps. C'est la vision hypostatique de la prière. Qu'est-ce que c'est important est que dans autre école kabbalistique, c'est aussi une école du 13e siècle, nous ne savons pas où il existe, c'est-à-dire peut-être Provence, peut-être Gérone, peut-être même Castille. Dans la seconde page, vous pouvez voir l'institution plus longue, une vision même plus claire de la prière comme une hypostase divine. Je crois que c'est le texte le plus important pour ma thèse sur la prière. Il se trouve dans mon manuscrit, il n'était pas publié d'une façon claire, il était copié par quelqu'un, mais l'original se trouve dans quelques manuscrits. Qu'est-ce que c'est intéressant de ce cercle kabbalistique qui s'appelle le cercle du livre de la spéculation? C'est une kabbale très 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 difficile, peut-être la part la plus difficile de la kabbale du XIIIe siècle. Nous avons ici une définition très claire. Le saint, béni soit-il, est appelé tefila, c'est-à-dire prière. Et Ketereleon, la première attribut divin, est appelé bracha. C'est-à-dire, c'est clair que nous avons ici une vision hypostatique de Dieu qu'on est. Et la première manifestation divine, le premier attribut divin, c'est la bénédiction, bracha. Qu'est-ce que c'est intéressant ici que nous avons une étymologie, pseudo-étymologie? Le mot tefila, c'est-à-dire prière, vient de nufila, c'est-à-dire tomber. C'est-à-dire, pour la première fois, nous avons ici une philosophie, si vous voulez, de la prière divine. C'est un type d'émanation. Et ce type d'étymologie qui n'a rien à faire avec l'hébreu, c'est une vision très mystique, dans le sens de la prière qui est différent de la vision qui se trouve dans la Kabbale géronaise. Dans la Kabbale géronaise, la prière a été un mouvement ascendant. Chaque sphira priait à la sphira qui est plus haut, supérieure. Ici, nous avons une autre vision, que Dieu, en fait, tombe comme une prière vers nous. Sache que si le Saint, béni soit-il, est appelé Tfila, encore une fois, c'est parce qu'il est la racine et l'essence de tout. C'est, je crois, aussi une vision plotinienne de Dieu comme racine de tout. Et c'est de lui que la bénédiction tombe en vertu de l'émanation d'une bénédiction à l'autre jusqu'à la fin de tous les sphéros. C'est-à-dire, nous avons une vision descendante maintenant. Et dans les deux cas, n'importe pas si ascendant, descendant, nous avons une vision hypostatique de le rituel. C'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que dans le même temps que Dieu prier, nous avons la prière humaine comme technique. C'est-à-dire que nous avons, dans le premier texte kabbalistique en fait, nous avons ce type de possibilité d'une rencontre entre le Dieu orant et l'homme orant. Pour moi, c'est très important de souligner ce type de démarche intellectuelle, la vision hypostatique de Dieu. Peut-être que c'est la contribution la plus importante, je crois, de la théologie juive en général. C'est-à-dire, Dieu comme un bon juif qui pratique tout le temps les préceptes juifs. C'est-à-dire, ça se trouve déjà dans le Talmud, dans différentes formes, mais qu'est-ce que c'est intéressant dans le premier texte kabbalistique, que nous avons maintenant une métaphysique clair, c'est-à-dire, c'est l'attribut divin. Là, la prière, la bénédiction, nous voulons voir aussi de l'autre. Je ne peux pas entrer maintenant de détails, mais je crois qu'ici nous avons une approche qui était très intéressante à l'approche hindoue, et où nous pouvons trouver aussi des divinités qui s'appellent croyances, aux prières, aux paroles. Et il y a un article très intéressant en fait de M. Charles Malamud sur la croyance comme une déesse. Et nous voulons voir dans une seconde exactement la même démarche. La croyance est un attribut divin. Et je crois que ce type de démarche est la démarche talmudique rabbinique, Dieu orant, et la démarche plotinienne, néoplatonique, qui peut expliquer qu'est-ce que c'est la Kabbale du point de vue théosophique dans la première génération. C'est parce que je crois qu'ici nous avons on voit en fait les deux vecteurs de base de la Kabbale. Le vecteur ritualiste performatif qui peut devenir aussi d'une part une théologie, d'autre part une technique. Et nous avons l'aspect néoplatonicien, platonicien, qui donne une échelle, une structure qui est plus claire pour les différents attributs divins qu'ils sont aussi le rituel. Et je crois qu'une façon de comprendre mieux la Kabbale est d'analyser ce type de démarche, la démarche d'une hypostase ritualiste ou ritualisant, et l'autre démarche qui vient de sources arabes, peut-être aussi chrétiennes, mais d'origine plotinienne. Je voulais faire le sommaire de les premières quatre lignes de cette citation. Nous avons la prière tombant. Mais la prière que nous prononçons quotidiennement est un sujet sublime, c'est la racine de la splendeur, de la gloire, de la majesté, de la royauté. C'est-à-dire que nous avons maintenant les aspects ascendants de l'homme, c'est-à-dire la prière quotidienne, qui est aussi décrit d'une façon hypostatique, splendeur, gloire, majesté, royauté. Et nous considérons la foi qui est enracinée dans la zone de la raison. La phrase hébraïque n'est pas si claire, c'est un terme qui Mechitzata Machshava, c'est quelque chose qui ce n'est pas si simple de traduire, mais en tout cas, c'est intéressant ici que nous avons la foi, notre foi, qui s'appelle l'Emuna, se trouve enracinée dans la zone de la raison. La raison, c'est aussi la première sphira, sphira de Keter. C'est-à-dire, nous avons le Dieu tombant, mais nous avons aussi la prière ascendant, la prière humaine ascendant. La prière aussi, la foi humaine devient aussi une hypostase. Voilà pourquoi les maîtres de la Merkava, c'est les mystiques juifs anciens, c'est une citation dubieuse, c'est-à-dire une part de la citation se trouve dans les sources anciennes, d'autre part ne se trouve pas. Et voilà pourquoi les maîtres de la Merkava ont dit que si le Saint béni soit-il est appelé Tfila, c'est-à-dire ici il y a une vision, je crois, apocryphe. Je ne crois pas qu'il y a dans le texte ancien quelque chose comme ça, Dieu est appelé Tfila. Je crois qu'il y a une attribution pseudo-épigraphique. Mais c'est très intéressant ce type d'effort de trouver des sources plus anciennes pour sa vision ritualistique de Dieu. C'est parce qu'il est plein des yeux, c'est une vision qui se trouve, c'est-à-dire dans l'aspect le plus intime de la pensée divine, dans la zone de la pensée qui est extérieure à l'intellect. C'est n'est pas quelque chose qui est si clair, mais je crois que qu'est-ce que c'est clair après tout, et le fait que nous avons ce type de mouvement qui arrive dans la même place, c'est-à-dire le Dieu tombant, Machshava, le premier Sphira, et le Dieu Oron, qui arrive exactement dans la même place. C'est-à-dire l'idée ici, ce n'est pas la prière n'est pas un texte sémantique, c'est un mouvement ontologique. C'est qu'est-ce que c'est important ici. Nous ne savons pas de quelle prière nous parlons. C'est-à-dire, nous ne parlons pas d'un type d'une vision sémantique de la prière. Pas du tout. Nous parlons d'un mouvement ontologique. Et ce mouvement ontologique a un point de repère qu'il est la première sphira où Dieu arrive et aussi notre prière doit arriver. Ok, dans l'autre texte qui est aussi de provenance de ce type de littérature, de le siècle du livre de la spéculation, il est clair, nous faisons, et ici nous avons les aspects plus magiques, mais nous faisons descendre notre foi en un lieu qui est une substance pure et vivante. Fait descendre, c'est aussi ce type de influence théologique que j'ai mentionné déjà dans les autres discussions, c'est-à-dire que le rituel ici, ce n'est pas seulement une expression d'une soumission humaine, mais c'est un acte rituel théologique. Cette vision forte de la Tfila peut être comparé avec un texte qui a été écrit dans le 7e siècle par un auteur syrien chrétien qui s'appelle Martirium Sardona, quelqu'un presque inconnu, où j'ai trouvé ce type de vision très fort de la prière. La prière, et je cite ici un témoignage de Martirium Sardona, et peut-être que nous avons ici la version la plus proche à la citation de le maître de la Merkava. C'est la même période, la même région géographique. C'est selon Martirium Sardona, la prière est aussi omnipotente que Dieu. Elle commande sur terre, elle prend de appui dans le ciel. Dans les cieux. La prière est un Dieu parmi les hommes. C'est une citation, je crois, très forte. C'est le parallèle le plus important que j'ai trouvé sur ce type de vision ritualistique de Dieu, Dieu comme prière. Et le texte que j'ai cité ici sont presque tous dans le manuscrit, mais quelques manuscrits ont été copiés, publiés dans les autres livres kabbalistiques. L'une des plus importantes qui a copié des textes d'ici s'appelle le livre de la Plia, un livre qui a été très influentiel dans l'histoire de la Kabbale et aussi dans l'histoire du sabbatanisme et de le chassidisme. Et je crois que ce livre byzantin a été l'intermédiaire entre la Kabbale du XIIIe siècle et les deux textes chassidiques que je voulais analyser maintenant. Parmi les premiers siècles chassidiques, nous avons la vision de Dieu au rang d'une façon plus forte, je crois, que dans le texte kabbalistique. Et la première citation de Rabbi Pinchas de Koretz, c'est un maître chassidique de le cercle de le fondateur du chassidisme. Et il cite, je crois, le Bèche, le fondateur du chassidisme. Il écrit: je l'ai également entendu dire à propos de la prière. On croit qu'on prie devant le Saint béni soit-il. En rien, il n'en est rien. Parce qu'en fait, la prière est l'essence même de la divinité. Comme il est dit, il est Dieu, c'est-à-dire, il est ta louange, et il est ton Dieu. Prière est aussi l'une des appellations de Malchut, c'est une autre identification. Qu'est-ce que c'est intéressant? Et une vision qu'il n'y a pas quelque chose comme un Dieu transcendant et l'homme au rang avant un Dieu comme un roi. Ce n'est pas une vision de soumission. Mais qu'est-ce que c'est étonnant ici est que l'essence divine est la prière. En fait, je crois que nous pouvons voir dans le dernière citation, c'est seulement Dieu qui prie. C'est-à-dire nous sommes, si vous voulez, instruments divins. Et l'essence divine entre, selon le maître chassidique, dans le corps humain. Et la prière, c'est une activité divine dans le corps humain, utilisant le corps humain. La dernière citation de cette section est attribuée à Rabbi Nachman de Bratslav, un penseur chassidique très important. Et il dit que la ferveur dont on est rempli pendant la prière est l'aspect même de Dieu, qu'il soit béni. C'est, pour ainsi dire, l'aspect de « il est ta louange et il est ton Dieu ». Car lui, qu'il soit béni, est lui-même la louange et la prière. Pour voir ici cette vision, Dieu en fait, est la seule entité qui prie. Et ce acte de prière ce n'est pas un type, selon le maître chassidique, l'acte de la prière est un acte divin seulement. C'est-à-dire, l'homme doit se préparer pour cette invasion divine. Nous pouvons trouver des autres explications plus tard, et comment le Dieu le fait. Mais qu'est-ce que c'est intéressant, que la prière est l'invasion divine dans le corps humain, et ce n'est pas le contenu de la prière qui est important, mais c'est ce type de récitation qui, en fait, c'est une récitation de le mot de la prière par Dieu dans le corps humain. Ici, nous pouvons voir quelque chose qui est mystique. Le Dieu se trouve en nous. Nous sommes possédés par Dieu. C'est la version chassidique. Et chaque prière est seulement une prière divine. Dans les autres textes qui se trouvent dans la section 4, j'ai collectionné quelques exemples qui se trouve dans le maître kabbalistique très important qui s'appelle Moshe Cordovero, à la date du 16e siècle à Safed, où nous pouvons trouver les formulations les plus magiques de la prière, mais c'est une magie de la sonorité, c'est-à-dire la vision que par la récitation des mots de la prière, nous pouvons attirer Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence de base entre le texte que j'ai analysé dans la dernière conférence sur la Torah, c'est exactement la même technique, c'est exactement la même source, mais ici nous pouvons trouver, en fait, des expressions qui se trouvent dans un texte de base dans l'histoire de la Kabbale, le texte de Cordovero. Et je voulais vous donner seulement un exemple dans la troisième page, la première citation. Le même Cordovero dit, quand on prononce une des lettres de la prière, c'est vrai que c'est la prière, et qu'on provoque le mouvement de son, alors la puissance spirituelle de cette lettre devra nécessairement être incité et le souffle de la bouche à partir de quelle de forme, de sainte forme se constitue, montera et s'attachera à sa racine, car c'est la racine de la émanation. C'est-à-dire que nous avons ce type de ascente et descente de la sonorité et le lettre, le mot de la prière peut attirer le Dieu après. Qu'est-ce que c'est important ici? C'est l'accent grave, si vous voulez, sur lettre. Nous ne parlons pas de mots. Et nous avons, encore une fois, nous avons ce type d'approche hyposémantique. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème sémantique de tout. C'est presque toujours le texte intéressé dans les lettres, la prononciation de lettres, et c'est parce que je crois que nous pouvons parler d'une vision hyposémantique. Qu'est-ce que c'est intéressant? C'est la prononciation correcte de chaque lettre. Et ce type de accent sur la lettre se trouve aussi dans le premier maître chassidique. Et vous pouvez, la troisième citation se trouve dans l'entourage de le fondateur du chassidisme. La lettre que l'on prononce, c'est encore une fois les lettres, ce n'est pas le mot, ce n'est pas la prière, sont seulement un récipient et un revêtement. Il faut attirer vers le bas les puissances spirituelles, c'est exactement l'expression de Cordovero, puissance spirituelle, des sphirotes, attirer vers nous, avec la lumière d'Ein Sof, de l'infini, qui le vivit au-dedans de l'être au moment où on le prononce. C'est-à-dire, c'est exactement la même vision qu'on dans le cas de la Torah. La récitation de l'être n'importe pas si c'est la Torah ou la prière, c'est toujours, il y a un type d'une affinité secrète, occulte entre les lettres distinctes, séparées et les puissances spirituelles. Et d'autres, les autres citations donnaient exactement la même impression que nous avons ici une vision hyposémantique. Et qu'est-ce que c'est intéressant que nous avons ce type de vision attribuée à la fondateur de Chassidisme, et je crois que nous pouvons offrir une trajectoire de ce type de magie, magie talismanique, qui se trouve dans des sources arabes avec des autres sources hellénistiques. On entrait la Kabbale espagnol ont été formulés par Cordovero et ont devenu un type de pratique. C'est qu'est-ce que c'est important dans le chassidisme, que nous pouvons parler dans le chassidisme d'une pratique qui a été claire. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une recommandation, c'est dans le cas de la mystique chassidique, c'est une mystique qui gravite tout le temps sur l'idée de la prière. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une vision abstraite ou un idéal. Nous parlons d'une vision qui est le centre de la mystique chassidique. C'est clair que les mystiques chassidiques ont lu ce type de littérature safédienne de Cordovero et dans le dernière citation de section 4, nous pouvons voir exactement comment Cordovero a été cité par un maître qui a été très influentiel parmi le maître chassidique. C'est-à-dire, c'est clair que nous pouvons parler d'une histoire de ce type de sonorité qui se trouve dans quelques textes gnostiques, les sept voyelles qui se trouvent dans le texte gnostique, néoplatonique, et après arabe, magique, magie juive et kabbale après le chassidisme. C'est une trajectoire très importante, je crois, qui peut démontrer comment une interprétation énergétique de le rituel a été importée par le kabbaliste et ont devenu une mystique dans le cas de le chassidisme, mystique vivant. Le 15e, excuse-moi, une autre trajectoire se trouve dans la kabbale extatique qui a aussi utilisé une vision qui est proche à la vision que j'ai analysée, la vision de la révélation comme un moment en quel la voie divine doit entrer la voie humaine pour ce type de révélation. C'est-à-dire, révélation, ce n'est pas une voie indépendante qui est, c'est-à-dire donne un message, mais en fait c'est seulement la voix humaine qui donne l'expression à la voix divine, et ce type de pensée a été très influentiel après dans le kabbal aboulafien, dans le kabbal safédien et aussi dans le chassidisme. Je voulais maintenant insister sur ce type de dans le chassidisme d'une synthèse entre la vision talismanique que j'ai parlé, le lettre qui peut attirer le divin, et une vision d'une révélation pendant la prière. La prière, ce n'est pas seulement une prière, c'est un moment d'une révélation mystique. Et nous avons un type de confluence entre la vision magique et la vision de la kabbale extatique, où la révélation est en fait le voie divin qui entre la voie humaine. La deuxième citation qui se trouve dans le dernier texte, dans la dernière page, est attribuée encore une fois à la fondateur de chassidisme, le Becht. Je crois que c'est un texte de base pour comprendre l'histoire de la mystique juive. Le Becht disait que les sujets célestes dont il avait été jugé digne de recevoir la révélation ne lui était pas parvenu à cause de son étude intensive du Talmud et de la jurisprudence, mais uniquement à cause de la prière qu'il récitait toujours avec une grande kavana, intention mystique. C'est ce qui lui valut cette haute distinction. C'est-à-dire que nous avons ici une confession très très importante, plus haut que l'étude intensive du Talmud, c'est-à-dire la vision rabbinique de base. Il y a la prière, et la prière est le moment de la révélation. Je voulais le démontrer dans le moment. C'est-à-dire que pendant la prière, dans la voie de la prière, il y a aussi l'occasion de la révélation. Et ce n'est pas comme une révélation, que la révélation a une source qui est totalement transcendant à l'homme, mais c'est une invasion de le Dieu dans la prière humaine. Et c'est le moment de ce type d'union divine avec le divin, mais aussi de la révélation de le divin. Le prochain texte est simple, mais aussi, je crois, une clé pour l'histoire de la mystique juive. Quand quelqu'un commence sa prière, c'est aussi une citation attribuée à l'élève le plus important de Becht, le grand magi de Meseritch. Il a dit, quand quelqu'un commence sa prière en disant, Éternel, ouvre mes lettres, c'est-à-dire c'est le premier verset de la plus importante prière juive, la bénédiction, Éternel, ouvre mes lettres, c'est-à-dire la première ligne de la prière, c'est la Shrina qui se loge en lui pour prononcer ses paroles. C'est-à-dire que l'homme peut prononcer seulement quelques mots, mais immédiatement la prière, en fait, est prononcée par la présence divine qui se trouve, qui se loge déjà dans l'homme. C'est quelque chose de très, très extrême, c'est-à-dire de dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est ce type de commencement éternel, ouvre mes lettres, c'est une invitation à la présence divine, d'entrer l'homme et de prier dans l'homme. C'est-à-dire que nous avons ici le Dieu Oron, dans l'homme, mais c'est, je crois, quelque chose de plus compliqué. Et s'il croit, c'est-à-dire, si quelqu'un est sûr de certains, s'il croit que c'est l'Ashna qui prononce ces paroles, c'est-à-dire, c'est une vision, je crois, quasi-quiétistique, c'est-à-dire, tu dois être sûr que la prière, ce n'est pas ta prière. Tu dois être sûr que la prière est la prière de la présence divine. Si tu es sûr, la crainte et le respect s'emparent de lui. Et le Saint, béni soit-il, se concentre pour ainsi dire et réside en lui. C'est-à-dire que nous avons en fait une double démarche. Nous avons la Shrina Oron, c'est-à-dire la présence divine, qui possède en fait l'homme. Mais après ce type de possession, nous avons un autre processus, c'est-à-dire que le Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, ce n'est pas exactement comme la présence divine, viennent aussi sur le corps humain. Et nous avons, je crois, ici, dans ce texte, une vision sexuelle, en fait, entre la Shrina, qui est féminin, et le Saint béni soit-il, qui est masculin. Et qu'est-ce que c'est la prière, le moment de la prière? C'est une réunion entre les deux aspects de la divinité, l'aspect transcendant, le Saint béni soit-il, et l'aspect immanent, la Shrina. Et la prière, c'est le moment, non seulement d'une rencontre entre l'homme et le Dieu, c'est aussi le moment d'une réunion entre les deux aspects les plus importants de Dieu dans le corps humain. C'est parce que je crois aussi, encore une fois, nous n'avons pas une vision d'une mystique mentale, cérébrale, quelque chose comme une transformation de l'âme. Qu'est-ce que c'est important ici? Nous avons une vision corporelle, très corporelle, c'est-à-dire la bouche est importante, le corps est important. Et dans le corps humain, nous avons là l'expérience le plus important d'une rencontre avec le divin, mais aussi un type de réparation de la rupture entre la divinité immanente, la divinité transcendante. La dernière citation, la prochaine citation que je veux citer maintenant, c'est aussi de le même maître. Qu'est-ce que c'est important de ce type de citation? C'est une vision d'une intensité très grande. C'est, je crois, le clef de la discussion chassidique. C'est-à-dire, il y a un type d'imagination religieuse très très forte pour créer ce type de trigger, que je t'ai appelé le coup trigger. C'est exactement, nous avons le nom divin, encore une fois, une formule très très simple, et immédiatement, il y a une vision que quelque chose peut être réalisé, quelque chose de mystique. Dans la citation de le grand Maguid, avant de commencer à prier, il doit penser qu'il est prêt à mourir pendant sa prière à cause de la concentration. C'est-à-dire que nous parlons d'une concentration très très grande. De fait, il y a des chassidim qui se concentrent si intensément dans leur prière que si la nature était livrée à elle-même, il mourrait après le quatrième ou le cinquième mot prononcé en présence de Dieu, que Dieu béni soit-il. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très proche à la vision que l'Éternel ouvre mes lettres, c'est le trigger, c'est immédiatement l'expérience est très très forte, quelqu'un peut mourir immédiatement. Peut-être qu'il y a ici quelque chose d'exagéré. Mais je ne parle pas maintenant sur des expériences, je parle des approches à l'expérience. Et nous avons ici une approche qui est clairement technique, c'est-à-dire quatre mots, et immédiatement ce type d'expérience extrême. En réalité, c'est la miséricorde de Dieu, qu'il soit béni, qui lui donne la force d'achever sa prière tout en restant en vie. C'est-à-dire, nous avons cette vision claire que le moment de la prière, nous parlons de quelque chose qui est quotidien, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas rare du tout, il doit être l'expérience de base dans le judaïsme en général, selon la vision chassidique. Nous avons ce type d'expérience extrême jour après jour. Si vous voulez, trois fois chaque jour après la vision chassidique. Et la dernière citation que je voulais aborder ici est la citation qui se trouve aussi dans le cercle de le Besht, c'est un autre élève, Rabbi Yosef. Yosef Yaakov de Polnoy, et ici nous pouvons trouver en fait le sommaire de ma thèse. De fait, toute personne valable adhérait mentalement à lui, qu'il soit béni. Et l'action de faire descendre l'influx n'est pas nécessaire, car il se peut que ce genre de prière est mieux quand il prononce uniquement mentalement. En effet, cette prière ne récupère pas de récipient pour attirer l'influx vers le bas. C'est-à-dire, ici nous pouvons voir aussi un type d'une magie mentale. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la sonorité, qui s'éclaire dans centaines de textes, qui s'éclaire que même que la sonorité est l'ambiance de base pour ce type de attraction de la divinité ici, mais ici nous pouvons trouver une démarche que je crois est très 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 rare en général, que même une prière mentale peut attirer la divinité. C'est-à-dire, ici je peux voir une vision de base dans la lecture mystique de le judaïsme, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est important est ce type d'attraction divine ici. Et j'appelais quelquefois sous des influences platoniennes ou néoplatoniques, et c'est clair qu'il y a des influences très très importantes. Mais qu'est-ce que c'est plus important, je crois, est de souligner ce type de vision plus magique, qui donne à la magie une lecture mystique, c'est-à-dire, c'est pas la magie, il y a ce type de union avec le divin, et je crois que nous pouvons parler dans ce cas d'un rapprochement entre le rite juif le plus important, la prière, la lecture de la Torah, et la magie et l'expérience mystique. C'est, je crois, l'approche de base est de trouver maintenant le syntaxe exact entre les différents concepts abstraits. C'est-à-dire, il y a des rituels, il y a des magies, il y a des mystiques. Mais qu'est-ce que c'est intéressant? C'est de trouver une explication qu'il est une syntaxe, qu'est-ce que j'appelle une phénoménologie des processus, parce que nous avons quelques types de processus ici, des processus magiques, rituels, mystiques. Je crois que l'analyse de les différentes manières de conjugation entre les éléments rituels, mystiques et magiques peut donner le clé d'une vision plus performative de la mystique juive. Il est différent, je crois, de la vision de base néoplatonique, je ne peux pas entrer ici dans comparaison, et je crois qu'après tout, les valeurs de base de la judaïsme, de le judaïsme rabbinique, c'est-à-dire ce type de prononciation sonore, est le clé plus important que de trouver des explications théologiques ou des sources d'inspiration qui se trouvent dans la Kabbale et dans les littératures avec une orientation plus théologique. Je crois que il est simple de démontrer que le rituel a été le centre de gravitation qui a attiré des différentes influences, ont conjugué ce type d'influence dans différentes manières, et les différentes manières sont les différents types de l'école mystique juive. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions... Oui. Il s'appelle, c'est un chercheur américain qui s'appelle Jess Byron Hollenbeck. Jess Byron Hollenbeck, qui a écrit un livre qui s'appelle Mysticism, Empowerment, Response and Experience, qui a été publié par State University, Pennsylvania State University Press, à 96. C'est-à-dire, c'est un livre très très grand, un livre très très intéressant, je crois que c'est un livre très extrême aussi, en quel il voulait trouver des... explication commune à des visions chamanistes, magiques, parapsychologiques et mystiques. Pour lui, qu'est-ce que c'est important? Je crois, qu'est-ce que c'est important dans l'approche? Le fait qu'il parle de ce type de vision énergétique. Qu'est-ce qu'il appelle empowerment? C'est-à-dire, la mystique, c'est un moment d'une manipulation de la pouvoir. Ce n'est pas seulement quelque chose de mental, ce n'est pas seulement émotionnel, seulement émotionnel, c'est aussi un moment de empowerment. Et je crois qu'il a trouvé des explications intéressantes pour quelques moments dans la mystique aussi. Ce n'est pas seulement, je crois, la démarche classique de la recherche de la mystique qui est, je crois, qui a ignoré le problème que j'appelle magie, que j'appelle empowerment. Et je crois que la contribution de cette étude, je crois que c'est une étude de base, peut devenir plus grand s'il est traduit, peut-être.
Vous disiez que c'était un des livres les plus importants de cette dernière
année. C'est mon avis, oui. Oui. Ce n'est pas un livre très grand, c'est grand, très, très grand. Mais je crois qu'il y a ici une démarche qui, en fait, est plus ancienne. Et pour faire une histoire de cette démarche, nous devons parler de le doctorat d'État écrit par Mircea Eliade sur le yoga. C'est-à-dire, le premier, je crois, ici, est Mircea Eliade dans ce livre sur yoga, et après dans le livre sur chamanisme. Il a déjà abordé ce type de vision. Mais le livre sur yoga, c'est un livre sur yoga. Le livre sur le chamanisme, c'est un livre sur le chamanisme. Et Eliade n'était pas si intéressé, en fait, dans les autres types de mystique occidentale. Je ne veux pas entrer ici dans c'est une discussion plus longue, mais je crois que nous avons le point final pour le moment d'une démarche qui a commencé avec Eliade, avec ces deux livres d'Eliade. Eliade a été après intéressé immédiatement dans le mythe, la vision mythique. Et entre temps, Eliade a devenu un peu, comment dire, obsolète. Et dans le livre de Hollenbeck, nous pouvons trouver un effort de récupérer ce type de vision orientale, technique, qui est très différent de le type occidental de mystique. Et je crois que le traitement de Hollenbeck, il est centré sur la mystique plus que Eliade. Le mystique aussi, il a de 100 pages sur Teresa d'Avila, par exemple. Une autre lecture de Teresa d'Avila. Autre lecture de Jean de la Croix. C'est-à-dire, c'est ne se trouve pas dans Eliade. Eliade a été intéressé dans la mystique, ce type archaïque. L'archaïsme a été la vision de base d'Eliade. Et c'est parce que pour Eliade, la mystique chrétienne a devenu quelque chose de vieux. Comme le christianisme occidental en général dans la pensée d'Eliade. Ce n'est pas seulement la mystique. Qu'est-ce que c'est intéressant de Hollenbeck? C'est ce effort de conjuguer la vision orientale, archaïque, avec une vision qui est plus générale. C'est-à-dire, il s'intéresse dans la parapsychologie, ce type de clairvoyance. Il voulait expliquer, Hollenbeck, ce type de moment dans lequel la concentration, la technique de la concentration, c'est le cœur de la thèse de Hollenbeck, le moment de la concentration est un moment de empowerment.
Vous écrivez H-O
qui Hollenbeck. H-O-L-L-E-N Beck. Hollenbeck. Beck. Ça dépend d'où est la H. Paul.
En cours de l'idée de mourir dans la prière que nous avons rencontrée chez Yosef Kotonoï, c'est une question d'interprétation. Est-ce que ça va dans le sens du sacrifice de soi le sacrifice,
oui.
C'est l'idée d'un sacrifice au nom de Dieu, ou une mort extatique, ou est-ce que c'est le préliminaire d'une renaissance d'un renouveau?
Et je crois que dans le contexte précis, ici, nous parlons d'une mort extatique. C'est-à-dire, l'intensité est si grande que quelqu'un doit mourir. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est ici. Il doit mourir. La vision naturelle est que tu dois mourir. C'est une miséricorde, il est écrit, que quelqu'un peut revenir. Je crois que ici nous avons le thème de la mort extatique qui se trouve dans le soufisme, se trouve dans la Kabbale avant. Mais qu'est-ce que c'est intéressant ici qu'il est conjugué avec la prière. C'est-à-dire, ce n'est pas un moment dans la technique mystique ou dans l'exercice ascétique extrême. Tout au monde, 3, 4, 5 mots qui sont prononcé avec une intensité grande. Et la vision, je crois ici, c'est... Nous pouvons parler de ce type de sacrifice, de Nefilatapaim, etc. Mais je crois qu'ici, dans le contexte précis, nous pouvons parler de ce type d'une mort extatique. C'est le Dieu vient immédiatement. Et c'est parce que la danger, que la mort est évidente.
Cette théologie de la prière s'adresse-t-elle aussi à la prière personnelle et la prière rituelle?
Non, c'est seulement la prière rituelle communautaire. C'est-à-dire, nous parlons de la prière, ce n'est pas rien d'affaire avec de prière personnelle. C'est clair, toujours, nous avons l'expression « Éternel, ouvre mes lèvres », etc. C'est clair que c'est là... La prière de base dans le judaïsme. Ce n'est pas, dans le judaïsme, la prière personnelle est quelque chose de très marginal. Ici, c'est clair que toujours, la prière, c'est prière rituelle, communautaire, classique, quotidienne.
Et quelle place alors la prière interreligieuse?
Qu'est-ce que c'est interreligieuse?
C'est-à-dire quand un juif, par exemple, prie avec un chrétien, un musulman.
Je ne peux donner aucune réponse parce que j'en ai trouvé quelque chose comme ça dans le source. Je ne peux donner mes dos ici. Dans le texte classique, rabbinique et kabbalistique, il n'y a pas rien comme ça. Nous avons une seule. Je crois, dans toute la littérature que je connais, c'est le plus grand maître halakhique. Joseph Caro a entré un monastère soufi. Mais ce n'était pas, je crois, une prière communautaire. Et c'est la seule fois que je connais dans toute la littérature que nous parlons de quelqu'un qui a entré un monastère et qui l'a reconnu ce fait. Je ne peux donner d'explications qui ne se trouvent pas dans les sources, oui. S'il vous plaît.
Quel est le rapport entre maître et disciple dans la tradition
religieuse? Il dépend de quelle période, de quel cercle kabbalistique. Il n'y a pas quelque chose comme une réponse. Dans le. dans la Kabbale, le cercle le plus important. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas ce type de relation qui se trouve dans la mystique, dans l'ascétisme, dans l'ascétisme en général. Le maître et l'élève. Et la Kabbale a agi avec ce type de cercle. Il y a des cercles kabbalistiques où il a été un maître aussi. Mais, avec le temps, la recherche de la Kabbale a trouvé qu'on fait que le maître, on étudiait avec les étudiants, et peut-être que les étudiants ont été des figures plus, très importantes, même pour le maître. Ce type de relation absolue, il y a le gourou, il y a l'élève. Et c'est clair qu'il est l'élève, qu'il est le gourou, c'est quelque chose de très 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 rare. Il se trouve, je peux donner des exemples, mais les exemples, je crois, ne sont pas caractéristiques. Le caractère de base est quelque chose comme un groupe interactif. Et toujours, il y a quelqu'un qui est plus intelligent, plus charismatique. Mais ce type de vision nette de le maître et l'élève est très très rare. C'est-à-dire toujours l'idée d'une, ce que appelé la communauté sonore. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est ce type d'une communauté dans laquelle le maître et le disciple ont le même type d'activité sonore. Je insiste sur ce terme. Je crois que ce terme est très important parce que nous pouvons trouver des éléments qui sont techniques et ne sont pas ce type d'attitude de soumission, ce type de vision à longue distance. Et nous avons toujours une activité qui se répète chaque jour avec une vision imaginaire peut-être, du résultat immédiat. Si vous avez une autre alternative, peut-être vous avez une vision meilleure d'autre terme. Je crois que le terme technique, comme le terme magie, doit être employé. C'est clair que ce type de terminologie a quelque chose d'agaçant. Chercheurs ou connaisseurs de la mystique occidentale. Mais je crois que dans les autres types de mystique, et je ne veux pas dire que cette approche est aussi important aussi pour la mystique occidentale. Je crois que dans la mystique occidentale, la vision est différente. Et je ne veux pas dire maintenant que j'ai trouvé le clé de la mystique. Pas du tout. Je parle de quelques écoles, je crois, importantes, kabbalistiques. Mais je crois qu'entre ce type d'approche dans la mystique juive, qui a été écrit dans l'Occident, en Espagne, en Provence, en Italie, nous avons une affinité plus grande avec la mystique hindoue et soufie, et peut-être aussi chamanistique. C'est parce que je voulais insister sur ce type de lecture qu'il est plus performatif, plus énergétique, et je ne veux pas dire que c'est meilleur ou non, c'est une autre chose. Mais je ne crois pas que d'analyser tout le temps ce type de vocabulaire, il y a une union mystique, il n'y a pas une union mystique. Il est plus proche du christianisme, ou la mystique chrétienne ou non. Ce type de comparatif, de vision comparatiste, je crois, ce n'est pas le meilleur terme de comparaison.
Je crois qu'il y a des thèmes de comparaison plus pertinents de point de vue terminologique et aussi historique.
Oui. Il y a un commentaire chassidique sur le talmud de Shabbat concernant l'allumage des bougies. Le talmud pose des questions sur quelle huile est utilisée pour le Shabbat.
Oui.
Et l'huile est comparée dans ce commentaire au corps de l'homme et la flamme à l'âme.
Oui.
Ah, permettait de tenir la main, c'était la mèche.
Oui, il y a une étymologie très importante que je n'ai pas mentionnée ici, que vous avez des raisons, mais c'est tout déjà dans la Kabbale. Et qu'est-ce que cette tefila, la prière? C'est une autre pseudo-étymologie. La tefila vient de la racine ptil, en français fil, au corps. Et c'est parce que la prière est aussi une corde. C'est dans la manière plus élaborée de la même conférence, je parlerai en fait de ce type de pseudo-étymologie qui se trouve déjà dans le texte kabbalistique. Et pour moi, c'est une preuve plus claire, très claire, sur la vision cordière que j'apprends. La prière est une corde. C'est exactement la étymologie. Tefila, petit. C'est-à-dire que la prière est une corde. Oui. Mais il se trouve déjà dans des textes kabbalistiques à la fin du XIIIe siècle. Il revient, ce n'est pas si connu, mais il se trouve dans quelques textes kabbalistiques. Et après, c'est une étymologie très simple. Et erroné, c'est clair que c'est erroné dans le même temps. Oui.
Oui. L'idée est que la mèche permet à l'huile de ne pas être brûlée tout de suite et à la femme de rester, et l'idée de la tefila, après l'idée, permettait à l'âme de rester dans le corps sans arrêt.
Oui, je ne peux pas parler maintenant, je ne parle pas de l'expérience, je parle, vous avez demandé quelque chose comme ça, comme des sources, oui. Je ne parle pas maintenant de l'expérience. Je ne connais pas qu'est-ce que c'est l'expérience d'avoir ce type de prière extatique avec ce type de lumière. Oui, il se trouve, vous avez raison, il y a des textes, je ne peux pas entrer maintenant en des explications psychologiques parce que pour moi, la psychologie est très importante, mais je ne connais pas le détail pour vous donner une explication plus profonde que vous pouvez. Merci beaucoup.